Merci beaucoup Delphine pour cette présentation du site. Donc moi je suis Swazik Kadio, je suis chargée de coopération nationale et je vais vous présenter maintenant notre prochain intervenant donc, qui s'appelle Alain Kerlan, qui est philosophe et professeur des universités honoraires à l'université Lumière Lyon 2, où il a exercé les fonctions de directeur de l'Institut des sciences et des pratiques d'éducation et de formation. Il est également le fondateur du pôle de recherche politique de l'art et de la culture en éducation et en formation au sein du laboratoire Éducation Culture Politique. Et son travail se situe au carrefour de la philosophie, de l'art et de l'éducation. En complicité avec deux artistes, Yves Henry et Arnaud Théval, il est engagé dans une expérience de résidence et d'intervention artistique et philosophique où se poursuit l'exploration de ces carrefours, de l'école à la prison. Les éditions Naufragés éphémères, association éditrice lyonnaise dont il est l'un des membres fondateurs, ont pour vocation la publication d'ouvrages témoignant de ces intersections. Donc Alain Kerlan est l'auteur ou directeur de plusieurs ouvrages. Parmi les publications récentes, après « Éducation esthétique et émancipation »,« La leçon de l'art malgré tout » publié chez Hermann en 2021, ces derniers ouvrages concernent la prison. Donc on peut citer « Quand les corbeaux ne volent plus sur le dos, prison-musée » aux éditions « Naufragés éphémères » en 2024, avec Arnaud Théval et Gaël Henri Panabière. Également un ouvrage issu d'un entretien avec Arnaud Théval, « L'art d'aller en prison manifeste » aux Presses universitaires de Liège. Et en mars 2025, un ouvrage à deux voix avec Arnaud Théval, « Histoire animale de la prison » qui sera suivi de « Philosophie animale de la prison » aux éditions Dilecta. Donc nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et voilà, c'est à vous. Oui.
Voilà, merci. D'abord, merci à vous pour cette invitation et cet accueil. Alors, je voudrais peut-être commencer par quelques petits préalables que vous avez anticipés dans votre présentation. Je ne suis pas donc un spécialiste de la lecture ni de la prison. Mon champ de travail philosophique se situe donc, comme on vous l'a dit, plutôt du côté de l'éducation et des rencontres entre l'art et l'éducation. Mais il se trouve que on ne s'est pas si loin de la problématique qu'on va aborder ensemble. Et que depuis quelques années, donc, mon chemin a croisé aussi celui des prisons. Alors, de deux façons, donc, deux petits préambules. Le premier, donc, il se trouve que j'ai été associé d'assez près à un festival, enfin, le terme est un peu étrange, à des rencontres, on va dire, qui se situent à Dieulefi, qui s'appelle Concertina. Vous avez le nom de Concertina pour ceux qui découvrent, ça désigne ce barbelé qui est sur les murs des prisons. Ce n'est pas seulement un accordéon, c'est aussi ça. Et donc, ces rencontres se tiennent à la fin du mois de juin de chaque année. On en est à la cinquième rencontre. Là, sur l'écran, vous avez la quatrième rencontre qui était consacrée aux marges. La cinquième, donc, qui va se tenir là, donc fin juin, donc 2024, a pour thème appétit au pluriel, ce qui est assez curieux comme choix. Alors ça, c'est la première circonstance, donc, qui m'a amené du côté des prisons. Et ensuite, la seconde circonstance, c'est un travail que je mène avec donc un artiste qu'on a évoqué à l'instant, qui s'appelle Arnaud Théval, que je connais depuis très longtemps, que j'ai rencontré plutôt sur le champ de l'école, dans le lycée professionnel dans un premier temps. Ensuite, il a beaucoup travaillé sur les hôpitaux, aujourd'hui sur les prisons, et dans une démarche qui est assez particulière, parce que Arnaud Théval, ça c'est peut-être le premier point qui va être assez intéressant, je crois, pour vous de le savoir, ses interventions en prison se refusent à être uniquement auprès des détenus. Il estime que la prison, c'est aussi l'ensemble du personnel, c'est bien entendu les surveillants, l'administration, et que ça doit les concerner tous ensemble. C'est un point de vue donc, qui n'est pas forcément partagé, mais qui me paraît important. Et dans sa démarche artistique proprement dite, le thème choisi pour entrer en prison est celui de la présence animale en prison. Alors donc, il recueille, il m'invite à le suivre, je l'accompagne, on va dire, personnellement, philosophiquement et personnellement, dans des visites de prison où l'enquête porte sur la présence animale. Alors bon, on pense aux rats, aux souris, mais il n'y a pas que ça, il y a des animaux apprivoisés à l'intérieur des prisons, ça existe aussi. Et puis, il y a des animaux vivants, mais aussi beaucoup d'animaux symboliques sur les murs dessinés ou sur les tatouages, etc. Et sur la photo précédente, je reviens rapidement, vous avez donc sur celle qui est sur votre gauche un détenu qui a choisi, puisque ce sont des mises en scène volontaires participatives. Hein, donc chacun des participants choisit et l'animal et la posture. Et là, vous avez un gardien qui a choisi de déambuler dans la coursive avec un corbeau donc empaillé sur l'épaule et avec un regard quasiment extatique. Là, donc, alors pourquoi le corbeau ? Alors justement, vous évoquez les nouvelles, la mère des éditions. Et avec un titre qui a pu paraître un petit peu bizarre, « Quand les corbeaux ne volent plus sur le dos une prison-musée ». Alors il se trouve que cette idée du corbeau, donc dans l'argot, le langage des détenus, c'est une blague qui est souvent faite, où ils disent que les corbeaux passent toujours sur les prisons en volant sur le dos pour ne pas voir la misère. Hein. Donc ce titre a joué sur cette idée-là. Et vous avez aussi sur la photo, cette fois qui est à votre droite, un détenu, lui qui lui a choisi de poser avec un perroquet au fond de la main, comme cela, sur un petit perchoir et un regard très attendrissant donc, qu'il porte sur lui. C'est un choix de sa part. Et une dernière photo où cette fois, là vous êtes sur une coursive, c'est à la prison de Draguignan, qui est une prison très récente, très lumineuse, rien à voir avec l'univers carcéral qu'on peut avoir en tête via certains films ou documentaires. Et ici, vous voyez une photo, donc ce sont des photos gigantesques, elles sont à l'échelle 1, donc il y en a une trentaine dans la prison, ne sont visibles que par ceux qui sont détenus ou bien personnels pénitentiaires. Et là, vous avez sur une coursive, au fond du mur de la coursive, une photographie qui a rassemblé un détenu et une surveillante dans une cellule avec un signe, comme vous le voyez. Alors, j'insiste sur le fait aussi, parce que c'est intéressant de le savoir, c'est que moi-même, ça m'a beaucoup surpris la toute première fois. Il y a un personnel féminin très nombreux dans les prisons. Par exemple, il y a pas mal de directrices de prison, peut-être même plus que de directeurs aujourd'hui, on n'en est peut-être pas très loin, je n'ai pas les chiffres exacts. Beaucoup de surveillantes aussi, donc c'est un point à connaître. Alors, moi, ce que j'ai retenu de cette collaboration, j'aurais rapidement le dire. Alors la première chose, c'est que on imagine la prison comme un lieu tout à fait à part de la société. D'ailleurs, on la met au bord des villes, voire même à la campagne aujourd'hui, comme c'est le cas de Draguignan en part de forêt. Mais en fait, sur le plan institutionnel et dans son rôle, la prison est au cœur de la démocratie, elle est au cœur de notre vie. Elle n'est pas sur les marges, loin de là. Et puis, la deuxième chose que j'ai retenue et sur laquelle j'insiste aussi rapidement, c'est que à partir de là, la place de la culture est très ambiguë dans les prisons, en ce sens que, dans les textes en tous les cas, elle est essentiellement ou même uniquement réservée aux détenus, avec une sorte de fonction un peu métaphorique, d'évasion, on va le dire comme ça au sens très très fort du terme. Or, et ça, là-dessus, je suis complètement Arnaud Théval. Je crois qu'il ne faut pas qu'on écarte d'emblée l'idée que ça ne concerne pas les surveillants. Après tout, pourquoi ne seraient pas eux aussi le concernés par l'idée qu'il y a de la littérature, de la lecture possible en prison, voilà. Ne pas écarter d'emblée cette idée-là, c'est ce que je voulais dire pour commencer. Et puis, alors, je vais procéder en deux temps. Vous me direz aussi pour le temps qui passe, là, pour le coup. Un premier temps où on va se centrer un petit peu sur les effets de la lecture, qu'est-ce que ça fait de lire ou d'avoir accès aux livres, d'une manière un petit peu générale, mais particulièrement en prison. Et puis un deuxième temps où j'essaierai d'aller plus systématiquement sur le terrain de l'art et de l'esthétique, puisque c'est quand même l'arrière-plan de ce que je vais vous raconter. Alors, on y va. Hein, donc, dans un premier temps, commençons par réfléchir aux effets du livre, de la lecture sur les lecteurs. Alors là, les sources sont nombreuses. Moi, j'en ai repéré quatre sur lesquelles je me suis appuyé. Il y en a une, évidemment, qui va de soi. C'est que de nombreux écrivains ont beaucoup écrit eux-mêmes sur la lecture, et sur le lien entre la lecture et l'écriture. Bon, il y a bien sûr Proust, mais on n'est pas obligé d'en passer forcément par là. Gracq avec En lisant, en écrivant. Ou encore, c'était le prix Nobel de littérature il y a une quinzaine d'années, là, Gao Xingyang. Un très beau livre, si vous ne le connaissez pas, qui vaut la peine d'être lu, « La raison d'être de la littérature », avec « Au plus près du ciel », qui devait être son discours de réception, je crois, à Stockholm. Mais on peut aussi s'appuyer, bien sûr, sur un certain nombre d'études de théoriciens, de spécialistes de la lecture ou bien de philosophes qui s'y sont un petit peu intéressés. Il y en a deux que, pour ma part, j'ai repéré et plus utilisé que d'autres. Il y a un petit livre en collection poche de Michel Petit, que vous connaissez certainement, qui s'appelle « Éloge de la lecture », avec un sous-titre très évocateur, puisque c'est « Construction de soi », donc la littérature comme construction de soi. Et c'est plutôt quelqu'un qui se présente comme une anthropologue de la lecture. Donc elle va au-devant de gens qui lisent dans des domaines divers, disons, et aussi des milieux divers. Et puis, il y a un livre aussi magnifique de Marielle Massé, qui est plus connu, mais dont le titre, lui aussi, en dit long. Il s'appelle « Façon de lire, manière d'être ». Vous voyez, on passe de la lecture à l'existence et à l'être. Voilà. Puis on peut aussi s'appuyer sur sa propre expérience de lecteur. Je crois que c'est le moment où jamais de la mobiliser, ça va de soi. Mais aussi également prendre en compte, et je vais commencer par là d'ailleurs, ce que disent les écrivains nés en prison, je veux dire ceux qui se sont découverts écrivains à travers la prison et l'emprisonnement, comme par exemple René Frény, qui est un des plus connus, ou Raleigh Miloudi, qui l'est un petit peu moins, mais que j'ai eu l'occasion de croiser justement à Concertina il y a quelques années. Alors, mon propos va essayer de croiser un petit peu ces données-là. La toute première, donc, avec René Frény, que vous voyez ici, « Naître à la lecture en prison ». Alors là, vous avez sur la diapositive une petite phrase qui vient en clôture de quelques pages que je voudrais rapidement lire après, où il écrit « Avant ce premier jour de prison, je n'avais ouvert aucun livre. Désormais, il n'y aurait pas un jour sans que j'en ouvre un ». Donc, il fait partie donc de ces écrivains qui, à travers la prison, ont découvert la lecture. Alors, il le raconte dans un ouvrage qui est un petit tract Gallimard, carnet de prison ou l'oubli des rivières. Donc, tract Gallimard numéro 11, 3,90 €. Donc, c'est pas très cher. Ça vaut la peine de se le procurer. Et alors là, donc, je vous laisse lire. Jamais je ne voyageais si loin que dans ces 7 mètres carrés. Je me mis à lire tout ce que contenait la minuscule bibliothèque de la prison à laquelle nous n'avions pas accès, jusqu'à ce que les yeux saignent de fatigue, à force de scruter dans la demi-pénombre les caractères d'imprimerie, je dévorais tout ce qui me tombait sous la main. Pendant 6 mois, mon cachot fut peuplé d'amis imaginaires, d'aventuriers, de femmes éblouissantes, de paquebots quittant les ports aux quatre coins des océans, d'îles fabuleuses. Je traversais des forêts, entrais dans des villes d'or, tombais amoureux à chaque coin de rue, tenter de pénétrer la pensée, les pensées plus extravagantes, les plus hermétiques me semblaient les plus profondes. J'étais novice, j'affrontais avec toute l'énergie inemployée que contenait mon corps, si jeune, toutes les injustices du monde. 6 mois que je ne vis presque pas passer, tant j'enregistrais de choses le matin dans la cour, tant j'en découvrais jusqu'au soir, dans le repli des livres, mon petit dictionnaire à portée de la main, que je consultais toutes les 5 minutes. Je ne vais pas lire la totalité de cela, mais je voudrais simplement souligner une chose. Bon, quand on lit ça, je suppose que vous en avez été extrêmement frappé, bon, les métaphores de l'évasion sont très très nombreuses. Le livre, dans un autre ouvrage, il parle même des bateaux de papier qu'il amène en prison avec les livres, avec lesquels on peut voyager très très loin. Mais on pourrait croire que du coup tout ça est assez miraculeux. La lecture vous tombe dessus et soudain c'est la rédemption. Et en fait, quand on le lit d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que, en fait, tout ceci n'a été possible que parce qu'il a rencontré un passeur dans la prison. Donc, il l'explique sur plusieurs pages. Je vous les mets là, mais je ne vais peut-être pas les lire, ça va prendre trop de temps. Mais il se trouve que dans la prison, la fameuse promenade de prison, l'heure où on va tourner en rond dans la cour, il y avait là donc un détenu qui, lui, était seul, personne n'était avec lui, et Frény s'en est approché, et c'était un professeur de philosophie qui a commencé à lui parler de livres, de toutes sortes de lectures. Il s'est attaché à lui, il lui a apporté des livres chaque jour, et Frény dit qu'il accédait à un monde abstrait et fascinant. Et c'est très frappant, ces deux mots, abstrait et fascinant. Il y a la fascination et le goût pour l'abstraction. C'est une chose qui m'a souvent beaucoup surpris, cette affaire-là. Mais, par exemple, vous donner une illustration comme ça qui était assez amusante, presque un peu limite même quelquefois. Lors des rencontres Concertina de 2023, si je me souviens bien, Il y avait un moment, ça dure 3 jours, donc c'était chaque midi, de midi à 1 heure, ça s'appelle la grande évasion, et il y avait un détenu, mais bon, qui avait purgé sa peine, hein, qui était sorti de prison, qui venait expliquer comment il s'était évadé. Et je me souviens de l'un d'entre eux qui raconterait comment il avait découvert la philosophie en prison, qu'il était fasciné par la théorie du corps chez Spinoza. J'en étais très étonné, c'est très compliqué, il me semble. Mais apparemment, lui, il avait... Il y a un goût comme ça pour l'abstrait qui est assez curieux. Voilà. Alors, ce monsieur-là a été véritablement son passeur, à tel point que il se met donc à... Il demande donc à avoir de quoi écrire. Et puis, il note tous les mots... Il parle même des mots extraordinaires, hein, schisme, altérité, dialectique, quintessence, existentialisme, aphorisme, sybarite et autres, alacrité, ça c'est lui qui l'ajoute, mais c'est du même ordre. Donc vous voyez, c'est un goût assez étonnant donc, pour les mots. Alors, René Frény a donc bien rencontré son passeur en prison et son rôle a été décisif. Donc du coup, il m'a semblé que ça pose une question. Donc, est-ce qu'il faut toujours un passeur? Et dans ce cas, comment faire, hein? Donc, peut-être qu'il ne suffit pas d'introduire le livre, il faut aussi que le livre lui-même soit introduit d'une certaine façon, que quelqu'un soit là pour faire le passage. Et comment faire pour qu'il y ait toujours un passeur? C'est peut-être pas toujours possible, mais il y a aussi autre chose qui est important, c'est que ce goût des mots-là que l'on trouve chez Frény, on s'aperçoit rapidement aussi que c'est quelque chose... Qui a rapport avec la relation entre l'art et le réel, d'un certain point de vue. Hein. C'est-à-dire que chaque mot, les mots sont aimés. Pourquoi? Bon, bien sûr, pour eux-mêmes, pour leur sonorité, par exemple, mais aussi parce qu'ils sont compliqués, ils sont savants. Et ça, bizarrement, ça peut fasciner. Moi, ça me fait penser un petit peu à une forme d'émerveillement d'enfance. Ça m'a rappelé, quand j'entendais ça, un souvenir un petit peu lointain d'un psychologue américain qui s'appelle Arnold Geisel, qui avait fait dans l'après-guerre des travaux énormes où il avait enregistré des centaines d'heures d'enfants dans des crèches ou dans des écoles. Et il remarquait que des enfants vers 4-5 ans, dans le moment où ils sont pleinement entrés dans le langage et continuent à l'apprendre, sont fascinés par les mots et ont un plaisir simplement à se saisir d'un mot. Et il en trouvait un exemple qui m'a beaucoup marqué parce que je l'ai constaté moi-même par la suite. Il notait que dans certaines écoles maternelles ou crèches, les éducatrices spontanément et intuitivement utilisaient ce goût des enfants pour les mots. Et il donnait un exemple. Dans une école maternelle, au coin cuisine, les enfants sont en train de jouer entre eux. Et puis, ils veulent exclure une petite fille dont ils ne veulent pas. Et alors, vous savez, un refrain comme ça d'exclusion, comme il y en a souvent chez les enfants, « Elle ne jouera pas avec nous, elle ne jouera pas avec nous », etc. Et l'éducatrice intervient, et puis elle dit « Mais si, elle va faire l'inviter ». Elle insiste bien sur le mot « inviter ». Et aussitôt, les enfants acceptent. Le mot a été un passeport pour, au contraire, se rassembler où ça excluait. Bon, alors, c'est un peu métaphorique, mais enfin, peut-être qu'il y a leçon à en tirer. Hein, donc, voilà. Alors, autre chose aussi, et je voudrais peut-être insister un petit peu là-dessus, parce que c'est quand même un petit peu optimiste. Hein, donc, en fait, ce que raconte aussi Frény, c'est qu'avant même son passeur, il a eu une première expérience du livre. Et c'était à travers la voix de sa mère qui lui lisait donc le Comte de Monte Cristo chaque soir. Et ça, dit-il, totalement bouleversé sa vie, à tel point que quand il sortait sur le port de Marseille, il était avec Edmond Dantès, etc., etc. Et donc, du coup, il faut aussi peut-être, je crois, réfléchir... Voilà le texte dans lequel il l'explique, mais je ne vais pas vous le lire parce que j'ai peur que ça prenne trop de temps. Je ne sais pas si le diaporama sera mis à disposition, peut-être. Oui, bon, moi je le veux bien, donc comme ça permettra de lire les pages, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il raconte donc toute cette affaire-là. Et en plus, il habite Marseille, hein, donc le château d'If, il connaît bien. Et il termine en disant que de cette effrayante prison, dès lors que cette effrayante prison se dressa dans mes rêves et agita mes nuits, Les hommes étaient donc comme les enfants qui s'étaient moqués de moi, dangereux, perfides et méchants. Alors, ce qu'il nous raconte dans cette histoire de la première fois, c'est comment les mots permettent véritablement de mettre justement quelque chose sur des choses et de mieux s'en saisir. Et aussi, cette première fois est intervenue non pas simplement parce que le livre lui permettait de rêver d'aller ailleurs, hein, parce qu'on a souvent cette métaphore de l'évasion, mais c'est presque pas le contraire, ce serait beaucoup dire, mais c'est aussi la formulation elle-même. Il s'en explique dans ce texte en disant que son émotion face au livre est née de deux phrases. Ce sont les phrases elles-mêmes qui ont porté cet effet-là, pas simplement l'histoire qu'on raconte. Et je crois que c'est important de le rappeler. Donc, c'est vraiment la littérature sous la forme du langage, des mots et des manières de dire, de faire et des rythmes qui les habitent, qui ont aussi un rôle extrêmement important. Et je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, mais on m'a souvent dit, mais comme je n'ai aucune preuve de cela, pas de statistiques, c'est du on dit, que dans les prisons, les livres les plus empruntés, en tête viendrait la poésie et la philosophie. Ma foi, je ne sais pas si vous pouvez confirmer. En tout cas, ce serait des choses que j'ai souvent entendues. Hein. Voilà. Cette façon de lier la langue, le réel et l'imaginaire, peut-être, et si c'est au cœur du livre, donc. Et cette première fois, donc, j'y reviens, parce que, du coup, là, on prend conscience qu'avant le passeur, donc, qui a permis d'entrer à nouveau en lecture, il y avait déjà une voie de lecture qui était celle de la mer, il y avait déjà une première fois, une première fois qui est une expérience esthétique, en fin de compte, une première fois où la relation au monde passe par les formes que l'art lui donne, de manière relationnelle. Donc, et là-dessus, j'insiste rapidement, peut-être que si on met la littérature du côté de l'art, ce qui est mon cas, bien sûr, bon, on ne peut pas s'empêcher de rappeler que ce qui est le propre de l'art, justement, c'est de nous faire voir le monde comme si c'était la première fois. Et c'est une chose que j'ai entendue très souvent dans beaucoup de paroles d'artistes. Bon, Truffaut, par exemple, n'arrêtait pas de dire qu'il voulait faire un cinéma de la première fois. Je me montrerai à celui-là, mais je vais vous donner aussi un exemple que j'ai cité tellement souvent que je connaîtrai presque par cœur. C'était une chorégraphe, donc qui, je l'ai vue travailler avec sa troupe, mais aussi avec des élèves d'un collège, et elle s'y prenait de la même façon. Elle disait « Maintenant, vous allez traverser la scène en marchant, en diagonale, mais essayez de marcher comme si vous marchiez pour la première fois. Chaque fois que vous faites un mouvement, faites-le comme si vous l'inventiez, comme si vous le créiez. La moindre chose doit être une invention, même un simple pas. Faites comme si c'était la première fois. » Vous voyez, donc, cette idée que, au fond, l'art, bah, c'est ce qui nous donne le monde. On est dedans, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Et à un certain moment, il arrive qu'une œuvre d'art, même si elle n'est pas exceptionnelle, vous fait découvrir ce qu'il est vraiment. Par exemple, je crois que tout le monde a vécu cela. Vous sortez d'un film, vous êtes allé au cinéma, et il y a des images qui ont changé votre regard. Vous commencez à voir des choses que vous n'aviez pas vues avant. Peut-être même des choses très très simples, même un arbre par exemple n'est plus le même au sortir d'un western par exemple ou d'un autre film qu'avant. Ce qu'avait très bien compris d'ailleurs un poète russe qui s'appelle Viktor Shklovsky et qui disait « Et voilà que pour rendre la sensation de la vie, pour ressentir les objets, pour faire de la pierre une pierre, il existe ce qu'on appelle l'art. » Et je vous ai mis en face une sculpture d'une sculptrice lyonnaise qui s'appelle Eruti, vous voyez, qui joue sur le lourd et le léger, le poids des choses, le déséquilibre, pour dire à peu près la même chose. Et la littérature, c'est aussi ça. Si on veut bien, comme je le disais tout à l'heure, regarder la littérature comme une forme d'art, au fond, il y a des livres qui vous font voir le monde comme si vous le redécouvriez. C'est tout à fait clair. Hein, donc, alors, ce qui est aussi important, que je vais insister là-dessus, c'est que cette expérience donc, de la première fois, donc, elle n'est pas forcément réservée à la seule rencontre avec les œuvres d'art. Hein, donc, une petite expérience de pensée comme ça, ou même un souvenir pour beaucoup d'entre vous. Imaginez, vous êtes à la campagne, il a neigé toute la nuit, vous le savez plus ou moins parce que les bruits ont changé. Hein, voilà. Le matin, vous ouvrez les volets, voilà, vous poussez les volets et vous découvrez ça. Comment se fait-il qu'on reste silencieux, qu'on n'ose même pas parler, on respecte le silence. Même marcher, déjà, est un sacrilège. On ne va quand même pas les saloper, cette belle surface blanche. C'est un petit peu comme si le monde vous était donné à voir pour la première fois. Vous retrouvez la neige comme si vous la découvriez, bien que vous la connaissiez bien. Et c'est important parce que ça veut dire que dans notre expérience ordinaire, il y a déjà des éléments qui relèvent de l'expérience esthétique et que donc du coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop l'expression public éloigné. Donc, parce que éloigné de quoi, ça veut dire quoi? Donc, y a beaucoup de gens qui sont éloignés du livre, qui sont éloignés de toutes sortes d'œuvres, mais qui sont très proches d'expériences qui ne sont pas si différentes de cela. C'est un souvenir que je vais vous rapporter parce qu'il m'a beaucoup marqué. C'était pratiquement ma première année d'enseignement. J'ai commencé ma carrière en école normale. Et donc, je formais des enseignants, et notamment en formation continue. Et puis, le hasard fait qu'on me donne la responsabilité d'un stage éducation artistique. À peine débarqué, jeune philosophe dans une petite province donc, de Franche-Comté. Et puis, je fais ce que je savais faire. Je parle des musées, forcément, dans mon expérience des musées. J'étais parisien, voilà. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui se lève et qui me dit « Mais c'est intéressant ce que vous dites, mais moi, je voudrais vous dire que c'est exactement ce que je ressens quand je me promène dans ma forêt. » Je me suis pas dit sur le coup, c'est après que je me suis rappelé de ce propos. Je me suis dit « Bon, effectivement, il faut à chaque fois peut-être penser que chacun a dans sa propre vie quelque chose qui relève d'une expérience forte, qui a une nature esthétique, mais qui n'est pas nécessairement liée à une œuvre d'art, qui peut être liée. Et cela, je l'ai redécouvert un petit peu plus tard, de manière plus théorique, à travers un philosophe comme John Dewey, dans l'art comme expérience, c'est ce qu'il explique donc en permanence. Donc la première fois, vous voyez, ça c'est important, n'est pas nécessairement au commencement. Ça c'est très important. Peut-être être dans cette idée que ça a déjà commencé, mais on ne le sait pas, quelque part. Et qu'arriver à retrouver, justement, avec les personnes, cette première fois, c'est aussi une manière de réouvrir, au fond, un circuit peut-être un petit peu bloqué. Hein. La première fois n'est pas forcément au commencement. Elle peut arriver à d'autres moments où on commence vraiment. Vous vous souvenez peut-être d'un film de Tavernier, je crois qu'il s'appelait « Ça commence aujourd'hui », qui était un film sur l'école qui était en plein délabrement à ce moment-là, elle va pas beaucoup mieux d'ailleurs. Et à la fin, ça se termine par des enfants qui sont en train de peindre dans un champ. Donc voilà, c'était ça l'idée que ça pouvait commencer aujourd'hui. Voilà. Et pour René Frény, pour y revenir, c'est un peu la même chose. Lui, à travers le livre, il redécouvrait quelque chose que déjà il avait vécu avec sa mère dans la lecture, mais aussi, comme il le dit, les livres se résumaient à la voix de ma mère. Le seul que je pus lire d'un seul regard fut le grand livre de la rue. Donc, vous voyez, donc, il y avait déjà un rapport au monde qui était un petit peu du même ordre. Voilà. Alors, oui aussi, je me suis demandé, tout ça, ce sont des récits d'écrivains. On peut dire, oui, mais parce qu'il est écrivain, il dit des choses très très profondes, mais que tout le monde ne ressent pas forcément. Voilà. Et c'est peut-être un souvenir reconstruit, mais je crois que ça ne change rien, même s'il est reconstruit, et c'est quand même extrêmement important de se dire que cette première fois, il faut vraiment pouvoir s'en emparer. Et moi, je me disais, mais c'est peut-être très très naïf de ma part, hein, peut-être qu'il faudrait aussi, avec les détenus, en passer par les vocations potentielles d'une première fois de lecture. Racontez-moi votre premier livre, si vous avez un souvenir de livre, quelque chose de cet ordre-là, le livre dont je me souviens. Donc, d'autant que là, vous voyez, c'est vraiment une illustration très profonde des articulations entre la lecture et la vie, et le réel, l'imaginaire et littéraire. On sort au fond de l'idée, et toute la suite est faite aussi pour le dire, que on ne peut pas donc simplement s'enfermer dans l'idée que le livre, au moins, ça vous permette d'être ailleurs, de vous évader, de rêver. Non, il faut en partir aussi de l'idée que le livre a un rapport profond avec la vie et que, comme dit Marianne Massé, que c'est aussi, lire est aussi une manière d'être. Donc, alors, ce que peut la lecture, en fait, Frény le dit et chacun peut peut-être le retrouver aussi. Déjà, dans quelle mesure c'est formateur? Sur le plan de simplement esthétique des sensations, il y a une amplification des sensations toujours à travers la lecture. Bon, Frény dit, lui, qu'il voit le soir le soleil entrer dans la mer et embraser les tours lugubres du château d'If. Bon, ça, il n'y a que la littérature qui peut nous permettre de retrouver cette image-là. Psychologiquement, il explique aussi qu'il s'est construit en faisant d'Edmond Dantès donc un ami imaginaire. Il raconte qu'il va se promener sur le quai et qu'il dialogue avec lui. Mais aussi, formation morale et politique, parce qu'il doit au livre justement de se révolter un petit peu plus fort, mais c'est un révolté de toute façon déjà, il a eu une enfance particulièrement difficile et délinquante, et ça culmine aussi dans l'identification qu'il parvient à faire entre son propre père et puis la figure d'Edmond Dantès, mais je vais laisser ça de côté. Donc si je, pour résumer très très brièvement donc, ce que je viens de dire, mais c'était pas la peine de le faire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, regardez la lecture non pas comme une évasion, mais comme une construction de soi, et aussi la regarder comme une manière d'être présent au monde et non pas de s'en éloigner, à travers les deux livres que je vous indiquais tout à l'heure. Ce qui me permet un petit peu plus rapidement donc, de revenir aussi, c'est une question que je me suis posée, on parle de lecture, mais est-ce qu'on peut dissocier la lecture et l'écriture totalement ? René Frény donc, fait partie de ces écrivains, mais c'est le cas de pas mal d'entre eux, qui, quand ils ont connu la prison, ils retournent justement comme artistes, écrivains en résidence, ou animant des ateliers d'écriture. Et dans un autre ouvrage, dans Les Gardiens de prison également, il raconte la chose suivante. Donc, je leur montrais que prendre un stylo, c'est comme prendre un bateau. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le début d'un grand voyage. Tous ces détenus ne montaient pas dans mon bateau et je voyais dans leurs yeux des flammes de haine. Moi, je continuais à aller là-bas, les poches pleines de mots et de voyages. Relation circulaire donc, entre la lecture et l'écriture. Il y a eu la lecture d'abord, mais très vite, il y a le besoin de l'écriture et qui renoue et relance la lecture. D'où la question que je vous posais déjà à l'instant et que je repose à nouveau. Donc, est-ce qu'il faut en passer par un dispositif d'écriture ? En tous les cas, en prévoir la possibilité que l'envie d'écrire soit très vite accrochée donc, sur le goût de lire. Alors, toujours un peu pour résumer, donc, je le disais également, il faut peut-être sortir de la seule métaphore du voyage, de l'évasion par la lecture, alors que c'est souvent la tentation que l'on a, d'autant plus que dans la petite histoire, disons, en dehors des textes, comme on l'a rappelé tout à l'heure, l'une des raisons pour lesquelles l'administration pénitentiaire a fini par accepter que le livre entre en prison, c'était la lutte contre l'oisiveté. C'est le fait qu'ils n'ont rien à faire et que quand on ne fait rien, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc là, on surfe sur une sorte de contradiction d'un certain point de vue. Et on peut retourner les choses, c'est pas uniquement meubler les temps d'oisiveté, mais c'est vraiment permettre de se construire une autre façon de penser, bien sûr. La lecture dans le cadre carcéral, bon, on peut pas la réduire à ça, c'est réducteur, et on peut pas non plus ignorer que, évidemment, les détenus, à l'occasion de la lecture, y trouvent accès à d'autres univers, bien entendu, et surtout modifient de façon profonde le rapport au temps. C'est important, cette chose-là. Le temps en prison, c'est quelque chose de tout à fait capital. Et Frény écrit dans un autre livre, qui est un recueil de nouvelles, Le chat qui tombe et autres nouvelles, « Ces hommes n'ont plus d'âge, leur patrie est le temps. » Leur patrie est le temps. Et Raled Miloudi, que j'évoquais également tout à l'heure, donc cet autre écrivain né en prison, lui raconte dans ses souvenirs comment même la promenade lui pesait à tourner en rond comme ça, parce que les mots tournaient dans sa tête, il n'avait qu'une seule hâte, c'était de retrouver sa cellule pour continuer à lire et à écrire. Vous voyez, ça va très très loin. Voilà. Je regarde l'heure parce que il me reste une vingtaine de minutes à peu près, hein, c'est ça ? Oui, bon, ça va être bon. Alors, une autre façon de dire ce que je viens de dire, c'est peut-être de prendre cette formule. En prison, les mots lus et écrits ont eux-mêmes le goût du réel. Ce ne sont pas des évasions, c'est au contraire le réel qui vous revient à la figure. Et dans un autre ouvrage, Tu tomberas avec la nuit, René Frény, donc évoquant, j'ai remarqué que dans pratiquement tous ses ouvrages, je n'ai pas tout lu, mais une partie, il revient toujours sur son expérience d'écrivain, auteur, allant tenir des ateliers d'écriture, combien de détenus m'ont dit « j'avais oublié toutes les odeurs ». Un jour, j'ai écrit par hasard le mot « figuier », le mot « septembre », et brusquement, tout est remonté. L'herbe mouillée des matins d'automne, la brume qui accompagne une rivière, le bruit de l'eau, celui des chiens de chasse, la saveur extraordinaire d'une figue, encore recouverte de rosée. Vous voyez donc là le lien très très vif avec le réel. Donc la lecture dans la vie, hein, j'ai donc souligné cette formule, comme pouvoir de formation, de transformation de soi. Et considérer la lecture comme une conduite, là je vais en dire deux mots aussi. Il n'y a pas d'un côté la littérature face à la vie, hein, donc, et puis la lecture qui serait un moyen de la retrouver, mais sous une forme imaginaire et atténuée. Non, en fait, la lecture, elle est dans la vie. C'est une activité qui fait partie de notre statut d'être humain vivant. Donc, et c'est Marielle Massé donc, qui écrit que c'est l'une des conduites par lesquelles quotidiennement nous donnons une forme, une saveur et même un style à notre existence. D'où le titre façon de lire, manière de lire. Non, façon de lire, manière d'être, pardon. Voilà. Et je vous propose pour conclure ce point, cette première partie, d'adopter, si elle vous convient, donc, une formule de Michel Petit qui dit « Un livre est une hospitalité offerte ». Pour la prison, ça sonne bien. Ça fait le livre comme hospitalité offerte au cœur de la prison, puisque hospitalité, bon, c'est à la fois l'accueil, hein, bien sûr, mais c'est aussi l'abri, c'est le soin, le care, c'est le répit, c'est tout, la relation de soi, c'est tout ça. Et Michel Petit, dès le début de son livre, là je vous ai mis deux phrases, mais il y en a bien d'autres, développe cette idée, avec notamment cette idée que le livre rend le monde plus habitable. Vous voyez, c'est pas du tout l'idée que on s'évade dans un au-delà, on serait protégé du réel. Au contraire, on va mieux habiter le monde et avec, du coup, la possibilité de vivre des expériences essentielles donc, sur le plan psychique, émotionnel, intellectuel, esthétique, etc. Voilà. Donc, j'en viens à mon deuxième développement, mais qui était déjà présent dans le précédent, donc ça ne va pas vraiment être un saut, c'est plutôt une manière de tirer le fil. Considérer la lecture comme une conduite esthétique. Alors d'abord, le terme de conduite esthétique ou de conduite tout court, alors, hein, je crois que c'est important quand même de le souligner, c'est qu'une conduite, bien sûr, c'est une manière de se comporter, ça on le sait bien, mais c'est aussi quelque chose qui indique une direction. Hein. Quand on a une conduite, c'est qu'on va quelque part et qu'on le sait plus ou moins. Et donc du coup, une conduite, c'est aussi des choix. Pour se conduire, il faut choisir de tourner à droite ou à gauche, enfin, etc. etc. Donc, et c'est bien une modalité d'existence, une manière d'être au monde, la conduite, y compris la conduite esthétique. Voilà. Alors simplement, ça c'est un point sur lequel j'aime toujours insister, c'est que tout être humain, d'où la formule homo aestheticus, là, que vous comprendrez donc par là même, tout être humain engage avec le monde un ensemble de relations très différentes. Il y en a au moins quatre que l'on peut au moins mettre en avant. La première est la plus connue, hein, donc, c'est la question de la connaissance, du savoir, donc c'est homo sapiens. Hein, donc, nous avons avec le monde des relations de connaissance, on cherche à comprendre, à analyser, décortiquer, expliquer, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une relation qui, elle, est une relation de fabrication, le fameux homo faber, de technique, bien sûr. Il y en a une autre d'appropriation, la consommation, etc., qui est aujourd'hui, on le sait, notre tombe creusée. Bon, voilà, ça c'est l'homo aestheticus. Et moi j'invite à prendre en compte un autre type de relation qui est aussi important dans notre propre vie, une attitude qui n'est pas de connaissance, je cherche pas essentiellement à comprendre ou à analyser quand je suis face à un tableau, ni même dans la lecture d'un livre, mais c'est ni bien sûr à travailler, ni même à consommer, hein, encore qu'on peut consommer des livres, mais enfin c'est une métaphore pas forcément heureuse. Mais c'est quoi cette relation-là? C'est le simple plaisir d'être là. C'est un plaisir pris simplement dans l'apparition du monde, comme devant la neige tout à l'heure, voilà, devant un paysage, un objet, bien sûr. Et c'est une conduite qui est absolument délibérée et volontaire. C'est-à-dire qu'à certains points, par exemple, la neige que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas la neige qui vous empêche de sortir votre voiture du garage, qui vous oblige à pelleter pendant des heures avant d'y parvenir. Non, c'est la neige là, dans le don immédiat donc, qu'elle fait d'elle-même. Et c'est quelque chose qui est très présent dans l'enfance très très tôt. Moi, je le dis très souvent comme ça, sous une formule. Je pense que l'enfant qui tend le doigt comme ça, qui est dans vos bras et qui vous montre quelque chose, il est dans cette relation-là de découverte du monde et pas forcément de connaissance ou de demande de consommation. Et voilà. Donc bref, tout être humain est aussi homo aestheticus. C'est une part essentielle de notre humanité qui doit être prise en compte et éduquée comme les autres, hein, bien sûr. Et elle a sa part en prison, si les prisons veulent, comme elles le disent, être humaines ou humanisées. 5 minutes. Bon, il faut que j'accélère là. Donc, alors, on va peut-être terminer sur ces propos. Donc, on va considérer que la lecture était elle-même une conduite esthétique. Et si on accepte de dire que la lecture est une conduite esthétique, ben ça va engager ensuite un ensemble de choses extrêmement importantes. Bon, d'abord, peut-être que si on dit cela, eh ben on va essayer de faire le lien entre l'expérience du livre et puis d'autres expériences qui, elles, sont des expériences ordinaires. Donc je reviens à Dewey qui le disait de manière extrêmement vive. En fait, dans notre vie, régulièrement, donc, nous avons des attitudes en face du spectacle du monde qui ne sont pas déclenchées par des œuvres d'art, mais tout simplement par le spectacle du monde. Quand il veut, Dewey nous dit toujours que si vous voulez comprendre ce que c'est vraiment que la science esthétique, ben, il ne faut pas aller chercher dans l'expérience du musée, comme j'avais tendance à le faire quand je commençais ma carrière, disons, mais il vaut mieux s'interroger et analyser l'expérience ordinaire. Ce que les gens... Alors, il en donne des exemples tout à fait étranges, hein, puisqu'il dit, par exemple, la voiture des pompiers passant à toute allure. Vous voyez, donc un grand trait rouge, un crest strident. Ça, c'est une expérience esthétique que tout le monde a pu avoir, et des enfants, bien sûr. Il parle même de la grâce, alerte du joueur de foot, du joueur de ballon qui passe dans la foule. Donc même le foot est pris comme exemple esthétique. Le plaisir de l'homme qui tisonne aussi, enfin, etc., etc. Et puis, alors je vais peut-être, pour conclure, aller très très vite à une photo à la fin. Voilà, attendez, excusez-moi. Je vais un peu vite. Ah, zut. Du coup, je suis au début. Je voulais... Ça me permettra d'avoir une image à commenter en même temps. Après, c'était des détails, donc on peut passer. Voilà, alors attendez, il faut que je vous remette le plein écran, là. Donc, on peut peut-être laisser comme ça, ça gagnera du temps. Donc, non, c'est pas idéal. Hein. Pour le remettre, parce que c'est pas un Mac, j'ai pris l'habitude. Voilà, voilà. Ah, ça y est, c'est bon, ça va venir. Bon, je commence en attendant. Ah oui, voilà que ça arrive. Oui, si on se place sur le terrain esthétique, pour moi, il y a trois termes qui viennent là et qui sont extrêmement importants. C'est la notion de jeu, c'est la notion de symbole et celle de cérémonie. Je l'emprunte à un philosophe allemand qui s'appelle Hans-Georg Gadamer, qui vous dit, lui, si on veut comprendre quelque chose à ce qu'est l'art, il faut en revenir à ses invariants anthropologiques. Qu'est-ce qu'on trouve dans toute forme d'art, quelle qu'elle soit, à quelque moment que ce soit ? Le jeu. Alors pourquoi le jeu ? Eh bien parce que, dit-il, pourquoi parle-t-on de jeu quand on dit le jeu des vagues ? Parce qu'il y a quelque chose qui est un excès de vie. Quand il y a jeu, il y a excès de vie. Un enfant qui joue, c'est un enfant qui déborde de vie. C'est bien connu. Et lorsque le jeu, la vie, en somme, déborde et elle se donne en spectacle, et ce spectacle devient des œuvres, ça peut être du théâtre, mais elle nous le rend en retour. C'est-à-dire qu'une œuvre forte, un livre très très fort, c'est un livre qui vous rend l'excédent de vie dont il est à l'origine, d'une certaine façon. Donc, et ici, la photographie, donc, vous êtes à la prison de Draguignan, donc vous êtes dans la salle qu'empruntent les détenus pour aller au parloir. Et là, Arnaud Théval a installé une photo qui a été faite avec 4 détenus, vous voyez, qui se sont réunis. Donc c'est une scène qu'ils ont inventée eux-mêmes. Hein. Ils ont pris chacun un oiseau empaillé sur les épaules et ils sont en conciliabule. Ben là, il y a une forme de jeu, pleine de vie, hein, qui était tout à fait lisible sur la photo. Mais c'est aussi quelque chose qui illustre la seconde caractéristique de l'œuvre d'art ou de l'expérience esthétique, même plus largement, qui est la notion de symbole. Bon, le symbole, on le sait bien, ce que ça signifie, hein, sur le sens littéral. Donc, c'est toujours une petite partie qui convoque le tout. Hein, donc, un livre, ce n'est jamais que l'évocation, quelques traits, quelques phrases, qui ça vous fait naître un paysage, etc. Mais surtout, le symbole était dans la Grèce ancienne une tradition d'hospitalité. C'est-à-dire que quand vous étiez accueilli chez un hôte, au moment de partir, au moment de se quitter, on prenait une coupelle qu'on cassait en deux et chacun en gardait une moitié. Et si un jour quelqu'un sonne à votre porte avec l'autre moitié, vous lui rendiez l'hospitalité. C'est une manière de dire que l'œuvre d'art, la lecture, tout autant, ça rassemble. C'est quelque chose qui fait qu'on partage une expérience. Et je pense que aussi la lecture en prison, de ce point de vue, peut-être aussi y penser, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'échange sur ce que l'on a lu. Moi, pour plaisanter, je me disais, on pourrait mettre un livre à la place de ce corbeau, comme ça, ou de ces autres oiseaux sur l'épaule, et ces gens seraient en train de se raconter ce qu'ils ont lu. Et puis enfin, le dernier point qui est très important, le troisième invariant donc anthropologique, c'est la notion de cérémonie. Gadamer dit la fête, mais la fête, c'est une sonorité comme ça un petit peu égarante. Donc il pense plutôt à la fête telle que se pratique dans les sociétés primitives. Vous savez que dans les sociétés primitives, la cérémonie, la fête, ça sert à régénérer le temps. Ce sont souvent des cultures dans lesquelles le temps est cyclique, il s'use à la longue et il faut le régénérer. Et Gadamer dit une œuvre d'art ou une expérience esthétique, c'est un petit peu la même chose. C'est quelque chose qui vous oblige à vous attarder. C'est-à-dire que quand vous êtes la neige de tout à l'heure, par exemple, vous oubliez totalement le fait que vous êtes aussi un homo faber, hein, qui pourrait aller déménager tout ça. Vous êtes complètement dans ce temps-là. Il y a un autre temps qui advient. Ou c'est Hannah Arendt aussi qui disait que toute œuvre d'art, ça sert à nous attarder, à apprendre même à nous attarder auprès des choses. Voilà. Mais le livre, c'est aussi une manière d'apprendre à s'attarder. Et du coup, ça répond à la question du temps, hein, que j'évoquais rapidement tout à l'heure, de l'oisiveté. Donc là, c'est une manière d'habiter le temps aussi, qui est extrêmement formatrice. Et je termine sur un propos que j'ai entendu avant-hier soir, comme ça un peu par hasard. Je regardais sur Arte un documentaire qui est consacré à Truman Capote et à son livre De sang-froid. Vous l'avez peut-être vu, il y a eu un film déjà, puis ensuite ce documentaire était projeté. Et Capote raconte qu'à la fin de sa vie, il a beaucoup fréquenté les prisons et les couloirs de la mort. Hein, donc notamment, il allait auprès des prisonniers, des condamnés à mort. Et il a une phrase ou deux comme ça, tout à fait étonnante. Il dit, mais pour ces gens-là, le temps est vide. Quoi. Leurs journées sont totalement vides en permanence, d'autant plus vides qu'ils ne savent jamais si c'est le dernier jour. Et il dit, c'est dans la lecture, justement, que c'est la lecture qui leur permet d'aller dans ce vide, retrouver les choses et ce goût des choses à travers les mots. Voilà, on va terminer là-dessus en disant que, d'une certaine façon, la lecture leur permet non pas l'évasion, mais un travail sur soi qui relie avec le monde. Alors là, de là à dire que ça va pouvoir servir une politique d'insertion, je n'en sais rien, je ne m'y aventurerai pas. Mais on pourrait peut-être dire, moi c'est souvent ce qui me vient à l'idée, c'est que en fin de compte, si l'art peut quelque chose aux vies des enfants, aux nôtres, c'est des détenus, des malades, comme on le voit un petit peu partout, c'est certainement pas parce que c'est de l'art-thérapie. Je crois qu'on est sorti du temps de l'art-thérapie aujourd'hui. C'est tout simplement, ce sont des êtres humains, et que tout être humain a en lui cette capacité, justement, de revivre le monde à travers des formes, des mises en forme qui lui redonnent le monde sous une intensité plus vive. Voilà, je terminerai sur ce propos. Et merci de votre attention. Ça nous laisse le temps d'avoir...